par les champs et par les grèves. Des histoires, des rencontres, des débats qui nous parlent des liens entre terre et mer. Pour découvrir, pour mieux comprendre les multiples visages de l'agriculture littorale. Aujourd'hui, rencontre avec Louis Dagorne. Je me rends sur l'exploitation de Louis et Liliane Dagorne à Tréguin, une commune littorale du Sud Finistère. Louis Dagorne est éleveur laitier au lieu-dit de Coat-Cargunus. Depuis plusieurs générations, la famille Dagorne vit sur ce territoire. Elle fait partie de l'histoire locale.
Donc moi, je me suis retrouvé agriculteur parce que, je crois que tout d'abord parce que mes parents étaient agriculteurs eux-mêmes. Donc moi, j'ai créé l'outil ici, juste un hangar, et à l'installation, on a acheté avec mon épouse, on a acheté des vaches et tout ça, quoi. On est parti de zéro, on a acheté le premier marteau, la première clé et les premières pointes.
C'était en quelle année ça ?
C'était en 79.
Il faut dire que dans les années 70, le lait a le vent en poupe. Yaourt, beurre, fromage, le lait sous toutes ses formes est à l'honneur.
Un verre de lait, c'est fou l'effet que ça fait, le lait c'est gay.
La demande importante de produits laitiers, couplée à la modernisation des outils de travail et à l'ouverture du marché à l'international, a de fortes répercussions sur le monde agricole. Depuis son installation en 1979, Louis Dagorne a été témoin de ces transformations.
Moi, ce que j'ai vu, le plus gros changement que j'ai vu dans l'agriculture, alors d'autres diraient les tracteurs sont plus gros maintenant, ils brillent beaucoup plus, les banques sont beaucoup plus riches. Non, la plus grosse différence, c'est qu'à l'époque où on s'installait, dans les trois quarts des exploitations, c'était des ménages. Aujourd'hui, sur la commune de Tréguin, il n'y a pas un seul couple travaillant sur l'exploitation. C'est soit monsieur, soit madame qui est chef d'exploitation, et travaillant seul ou avec des salariés, ou en faisant appel aux entreprises ou au CUMA.
C'est dû à quoi ?
Ben, c'est dû au fait que dans les périodes difficiles, ben, en particulier les épouses sont toutes parties travailler ailleurs. Ça, c'est une très très grosse évolution. Bon, après la disparition des toutes petites fermes, hein, c'est évident. Mais ils s'en reconstituent d'autres, mais dans des domaines très particuliers, quoi. Le maraîchage, les petits fruits, le safran. Et nous, c'est une structure comme la nôtre aujourd'hui. C'est une exploitation, je vais peut-être vous surprendre. L'année où je m'installais, il y avait en gros une vingtaine de personnes qui travaillaient. C'était des petites exploitations. Ouais, ça, c'est une évolution qui va continuer. Mais on voit quand même des structures qui sont reprises aujourd'hui par des jeunes et auxquelles on ne croyait pas, quoi.
En regardant dans des archives, je tombe sur des chiffres qui viennent confirmer ce que me dit Louis. En 1971, à Tréguin, 666 personnes résidaient sur des exploitations. La commune comptait alors 168 exploitations, un chiffre déjà en baisse de 48%, puisqu'en 1955, la commune recensait 325 exploitations agricoles. La taille des exploitations allait de 5 à plus de 20 hectares. Le système pratiqué était la polyculture-élevage. Étaient ainsi cultivées des céréales, notamment de l'orge et du blé, des légumes de plein champ, haricots, pois, et du maïs, alors en plein essor. On y retrouvait par ailleurs des élevages de porcs et de vaches laitières, ainsi qu'un élevage avicole. Malgré le caractère séchant et peu fertile des terres, qui fait dire aux Trégunois avec malice qu'à Tréguin on cultive des cailloux, l'activité agricole est présente dans le paysage. Les terres de Louis bordent la rivière du Minawat, un petit fleuve côtier qui se jette dans l'anse paradisiaque de Pouldohan. Au XIXe siècle, l'estuaire du Minawat accueillait de nombreux parcs à huîtres. Jusque dans les années 50, à Tréguin, il y avait autant de marins que d'agriculteurs. La vocation maritime de la commune influence le type d'agriculture qui s'y pratique.
Ici, on n'est pas dans une grande plaine de production, on est dans un type de production qui reste quand même relativement varié. Il y a relativement peu d'outils de production industriels. Il n'y a pas de dominante d'élevage porcin ou d'élevage de volaille important. Il y a peut-être le lait qui pourrait se développer de quelques grandes structures. Enfin, aujourd'hui, les grandes structures dans la zone, c'est, c'est de façon inférieure à 150 vaches. Et les structures qui ont 150 vaches, elles ont 3, 4 personnes qui travaillent dessus. Donc rien de... l'agriculture littorale, elle est différente en ce sens que elle a abandonné les productions hors sol qui font peur, quoi. Du fait de l'attrait touristique, du littoral, ceci, de cela. Parce que c'était beaucoup plus difficile dans ces zones-là d'implanter des porcheries et ça. Parce qu'on a un habitat qui est très, très diffus partout sur le territoire. Difficile d'implanter des porcheries, des poulaillers. Donc il y a eu certainement beaucoup plus de refus dans les zones littorales, d'implantation. Il y a beaucoup moins de poulaillers et de porcheries qu'ailleurs. À Trinan, il reste une petite porcherie qui tourne un peu encore, c'est tout.
Au fil des ans, l'exploitation de Louis et Liliane Dagorne s'est adaptée à la fois à ses conditions locales particulières et aux enjeux globaux. Tous deux ont mené une réflexion permanente sur l'évolution de leur système de production, en expérimentant sur l'exploitation et en saisissant toutes les occasions d'échange avec d'autres agriculteurs, techniciens de coopératives, représentants syndicaux et enseignants de lycées agricoles. Par ailleurs, Louis s'engage très tôt dans le Grenelle de l'environnement, puis dans les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC. Il évoque la question du passage à l'agriculture biologique sur l'exploitation.
C'est sûr que si moi j'avais 30 ans aujourd'hui, le virage se ferait déjà, quoi. Parce que dans l'esprit, j'avais pas trop de problèmes avec ça. Sauf qu'on avait une exploitation au départ qui n'était pas trop facile à orienter là-dessus, et puis que ce n'était pas dans l'air du temps à ce moment-là. Mmh. L'exploitation ici peut être apte à le faire, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et tout passe par le changement total du mode d'alimentation des animaux, quoi. Du tout maïs vers presque toute herbe, quoi. Ce sera possible parce que il faut pouvoir récolter l'herbe, mais ça, les jeunes sont en train d'apprendre à le faire. Ils ont pris cet engagement-là. Donc, déjà, l'évolution est niée, quoi. Donc après, il faut apprendre à bien travailler l'herbe. Et je crois que ce qui, peut-être, aux jeunes leur manque un peu, et qui, moi, m'a manqué un peu toute ma carrière, c'est de bien posséder les notions d'agronomie pour maîtriser les plantes. Et le passage en bio demande absolument une maîtrise agronomique. Et ça, c'est des choses qui manquent dans la formation dans les formations scolaires. Je vois, par exemple, au niveau du bassin versant, demander aux gens de changer de méthode de travail, si c'est pas accompagné par de l'agronomie, avec des techniciens qui sont formés à faire ce type de formation, ça ne peut pas avancer. Donc je pense que l'évolution de l'exploitation, elle se fera dans le sens où il y a des marges de progrès pour faire mieux ce qu'on fait. Et puis voilà, quoi. Maintenant, on n'est plus non plus dans la course aux résultats techniques comme on a pu être quand moi je me suis installé.
En effet, quand Louis et Liliane s'installent, ils font partie de cette génération où la logique de l'après-guerre soutient des objectifs de rendement et de productivité. L'action des pouvoirs publics est portée dans ce sens, avec l'appui des organismes de recherche comme l'INRA. Les agriculteurs bretons ont joué un rôle moteur dans ce processus de modernisation. Écoutons François-Tanguy Prigent, ministre de l'Agriculture au sortir de la Seconde Guerre mondiale et lui-même fils de paysans originaires du Nord Finistère.
Nos champs, nos prairies sont l'espoir de notre pays qui souffre de la faim. Travailler, produire, deux mots qui traduisent la vie même du paysan, toute d'effort et de sacrifice. Mais confiance, demain, le progrès et la science viendront au secours du paysan pour soulager sa peine, pour adoucir son sort, pour égayer sa vie. Le village demain, ce sera le village radieux, le bon village de France, où il fera bon vivre dans la liberté et le bonheur. Travaillons, mes amis, produisons, nourrissons nos frères. Il s'agit d'éviter la famine à notre pays, de sauver les petits, de préparer une jeunesse forte, d'assurer une population robuste. Et notre pays, sauvé par le travail de ses paysans et de ses ouvriers, montrera au monde son vrai visage, le visage de l'espérance. Sème, paysan, la moisson sera bonne.
La politique agricole n'a jamais été faite par les agriculteurs tout seuls. Ce sont les politiques et puis tous les organismes qu'ils ont autour, hein, toutes les structures nationales diverses qu'il peut y avoir, hein, l'INRA, le CNRS, tout. Tous les gens qu'on a fait travailler là-dessus. À mon époque, les agriculteurs ne savaient pas ce que c'était l'INRA. Si, pour eux, c'était 258 et 260. L'INRA 258 et l'INRA 260, c'est les deux premières variétés de maïs qu'on a semées dans le pays. Quoi. À l'époque, l'une des missions de l'INRA, ça a été de faire de la recherche agronomique sur l'adaptation du maïs dans les régions d'élevage. Une fois que l'INRA a fait son boulot, ça a été dans le domaine public, et ce sont les grosses boîtes privées, les semenciers, qui ont fait des nouvelles variétés, etc.
Entre les décisions prises en haut lieu et les attentes de la société, Louis essaye de construire sa propre vision du rôle local de l'agriculture. Il fait ainsi partie des premiers à s'impliquer sur les questions de qualité de l'eau autour de la baie de la Forêt. Son exploitation rejoint également le réseau national des fermes des filles, un réseau de fermes engagées dans la conception, l'expérimentation et l'évaluation de systèmes de culture visant une forte réduction de l'usage des produits phytosanitaires.
La participation à des groupes de travail, des groupes de réflexion, c'est important aussi. Quoi. Pour nous, il y a le groupe Ecophyto, quand même, qui déborde de simplement dire on va mettre moins de phyto. Parce que c'est la réflexion, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos cultures soient rentables en diminuant les phyto. Après, quand il s'agira de se passer des phyto, bon, on voit bien qu'est-ce qu'il faut faire, hein, du binage et compagnie. Remplacer les engrais, il faut apprendre à bien valoriser les fumiers. Mmh. Bon, ça, on a commencé sur l'exploitation il y a plus de 20 ans. Autour de moi, on me regardait comme un fou quand j'ai commencé à mettre du fumier sur les pâtures que les vaches pâturaient. Quoi. Et puis aujourd'hui, beaucoup font ça. Quoi. Donc ça, ils sont en train de l'apprendre parce qu'ils ne l'ont pas géré eux-mêmes. Tant qu'on ne l'a pas géré, on n'a pas conscience des erreurs qu'on peut faire. Quoi. Après, il faut savoir s'ouvrir, avoir des gens des référents à qui on peut s'adresser pour poser des questions. Quoi.
L'engagement de Louis sur le territoire se traduit aussi dans l'accompagnement de jeunes stagiaires qu'il accueille régulièrement en formation sur son exploitation, et ce depuis de nombreuses années déjà.
Et sinon, effectivement, on a formé énormément de jeunes en stage sur l'exploitation. Je dirais, sur la durée, plusieurs par an. Quoi. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on a des contacts avec pas mal d'entre eux encore.
Louis s'implique aussi dans la filière brassicole. Vous l'aurez peut-être remarqué, ce ne sont pas les brasseries qui manquent en Bretagne. Les agriculteurs sont des acteurs clés du processus de fabrication de bière, la plupart du temps à travers la culture d'orge brassicole. Mais Louis ne fait pas comme ça. Avec la brasserie de Tréguin, c'est un tout autre arrangement qu'ils ont mis en place.
Il y a une brasserie, et quand elle a été créée, le gars qui l'avait créée m'avait demander si ça m'intéressait de récupérer les drèches, c'est-à-dire on fait la bière avec du malt. Du malt, c'est de l'orge, du blé qu'on a fait germer, qu'on a chauffé pour arrêter de germer, et qu'ensuite on trempe dans une solution qu'on fait bouillir, qu'on filtre. Le jus sert à faire de la bière, mais le reste...
Louis récupère donc les déchets de la brasserie, les fameuses drèches, dont il se sert pour compléter la ration alimentaire de ses vaches. C'était « Rencontre avec Louis Dagorne », une émission réalisée par Arsine André avec
« Louis Dagorne ».
Par les champs et par les grèves, une série documentaire produite par les chercheurs du projet Paroles et chemins de l'agriculture littorale et par Radio Évasion, avec le concours de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne et le soutien financier de la Fondation de France, de la Région Bretagne et de l'Institut National de la Recherche Agronomique. À retrouver sur parchemin.bzh et radioévasion.net.